Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous. On est ensemble pour le 10h midi avec vous, avec Gilles Kanzmann. Bonjour
la
Gilles.
La chance, la vidéo n'était pas encore en ligne, Valérie.
Ah voilà, et nous sommes ensemble pour le 10h midi. On va évidemment revenir à 11h sur la conférence de presse hier de Christophe Castaner. Est-ce qu'il lâche les policiers? Qu'avez-vous pensé de son intervention? Nicole Belloubet qui propose également de recevoir la famille Traoré. Famille Traoré qui lui répond non. C'est un petit côté Léonarda, je trouve, dans le procédé. Et puis, entre 10h et 11h, on va recevoir Bilal Hassani. Bilal Hassani pour un concert événement avec beaucoup d'autres chanteurs à l'Olympia. L'Olympia qui a rouvert exceptionnellement en solidarité avec Emmaüs. On parlera évidemment également de la cause d'Emmaüs qui, à cause du coronavirus, se trouve dans une situation extrêmement compliquée. On aura avec nous l'une de ses responsables. Et puis après, question sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Facebook, Twitter, quand vous envoyez des messages privés, est-ce qu'ils sont réellement privés? Est-ce que c'est passible de racisme? On en parlera, d'antisémitisme. Enfin, bref, est-ce qu'on peut tenir des propos comme cela et être en privé? On en parlera avec vous à 11h moins le quart. Commençons avec les audiences.
Et puis, est-ce qu'on peut
hier
les divulguer? Surtout, est-ce que quelqu'un peut avoir la malhonnêteté de les divulguer si vous vous fâchiez avec quelqu'un, par exemple?
Oui, c'est toutes ces questions auxquelles on va répondre tout à l'heure. Première position hier, le podium, c'est TF1 avec Camping. Camping, 4 643 000 téléspectateurs. Ça fait partie, valeurs je crois, sûres. Des valeurs sûres, des films qu'on regardera peut-être comme Les Bronzés dans quelques années. Absolument. A signalé le carton pour Quotidien également. Quotidien qui a rassemblé 2 500 000 téléspectateurs. 10% de part d'audience. TMC qui était la troisième chaîne à la fin de l'émission. Vous savez qui recevait hier?
Mais oui, Nahuel et Claude.
Nahuel et Claude, absolument. C'est le record historique de l'émission. Les deux étaient là, très sympathiques. Donc, ça a effectivement extrêmement bien fonctionné. On a en ligne avec nous Régine. Bonjour Régine, qu'est-ce que vous avez regardé hier?
Moi, j'ai regardé Made the Crime. Oui. Parce que d'abord, j'adore les séries policières et on n'en manque pas sur les chaînes. Et par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup cette série parce que elles sont toutes très bonnes, d'accord? Ce qui en fait la différence avec les autres, c'est que par exemple, vous avez comme des séries comme Esprit Criminel, qui est une excellente série, mais qui est un petit peu dure, un petit peu, éviter les âmes sensibles. Parce que là, c'est pas le cas, c'est un peu plus discret. Et puis, ce que j'aime bien dans cette série, c'est il y a toujours une trame sous-jacente entre les membres des équipes et chez Bon Enfant il y a de l'humour entre eux, donc ça
qu'il y a des histoires parallèles.
Alors on perd pas le fil de l'énigme, bien évidemment il la met à terme et magistralement, c'est excellent. Et en plus, il y a ce petit côté léger, d'une fois sur l'autre, on retrouve des petites intrigues et c'est très agréable. Voilà.
Bon, écoutez, ça a plutôt bien fonctionné. C'est arrivé en deuxième position, 3 36 000 téléspectateurs, 12% de part d'audience. C'est 400 000 de plus que la semaine dernière. Donc, il y a beaucoup de gens comme vous, Régine, qui ont aimé cette série. Et puis, Forrest Gump, qui a pas mal marché, qui a pas très bien marché puisque c'est moins que la semaine dernière, 2 656 000 téléspectateurs, Forrest Gump avec Tom Hanks. Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Enfin, c'était au coude à coude avec France 2, je trouve sévère, madame.
2 millions 6, 3 millions, quand même, il y a un peu de marge. Zapping.
Hier, c'était la prise de parole du ministre de l'Intérieur sur le racisme dans l'absolu. Pour lui, c'est le mal absolu, le racisme. Christophe Castaner.
Le racisme n'a pas sa place dans notre société, pas sa place en République. Il se cache derrière 1000 oripeaux, 1000 visages. Il prend sans forme et sans prétexte. Mais c'est en réalité un mal abject. Un mal insupportable, un mal qui divise, oppose et bientôt blesse et tue.
Des policiers qui se sont lâchés.
Ouais.
Oui. Oui, Valérie.
On en reparlera à 11h, pardon. Ouais.
Non. Des policiers qui se sentent lâchés par leur hiérarchie. Pour Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, ce discours a créé un tollé dans les commissariats.
J'ai déjà eu des remontées de toutes les régions de France où c'est un véritable tollé dans les commissariats de police. Les policiers sont particulièrement mécontents. Et hier, vous aviez des gens qui manifestaient contre le racisme. Demain, ça sera très certainement des policiers qui manifesteront contre les annonces du ministre. Pourquoi ? Oui, bien évidemment qu'il faut lutter contre le racisme, ça n'a pas sa place dans la police nationale, mais les annonces qui sont faites apparaissent plus comme une chasse aux sorcières qu'un règlement des problèmes. Quand on parle de soupçon avéré, moi je suis désolé, mais si c'est un soupçon, il ne peut pas être avéré quand même.
Ouais. Des policiers qui ont trouvé un soutien aussi en la personne d'Olivier Marchal, un ex de la maison, qui s'est tourné vers le cinéma et la télévision, mais hier, il a clamé son amour pour la police sur BFM.
Moi, j'aime les flics et je suis là pour dire que j'aime les flics et que ce métier, je le respecte et que quand j'ai eu ma carte de flic et mon calibre, j'ai appelé mon père et j'ai dit « Papa, j'ai ma carte de police, je suis fier d'être policier et j'ai juste envie que les policiers ils continuent à être fiers d'être policiers aujourd'hui. » C'est tout ce que j'ai envie de dire, de transmettre comme message. Et j'en ai marre que des espèces d'acteurs de deuxième zone, des chanteuses de deuxième zone, continuent à chier sur les flics, alors que ce sont des gens qui vivent dans des quartiers privilégiés, qui ont des métiers privilégiés.
Voilà, une lettre qu'il a publiée sur les réseaux sociaux et qui a été extrêmement partagée, lettre ouverte aux policiers d'Olivier Marchal. Pardon.
C'est quelqu'un d'émouvant, hein. On l'avait reçu, tous les deux été émus par le personnage. Hier, dans cet avou, Noël Mamère de Écologie Les Verts s'en est pris à Emmanuel Macron et son hypocrisie sur l'environnement. Vous allez voir, c'est un Noël Mamère très remonté.
Regardez par exemple au plan politique, ça paraît dément. Monsieur Collomb, naufrage politique, mais il y en a d'autres, et beaucoup d'autres villes, où la République En Marche fait accord avec LR pour faire quoi ? Pour barrer la route aux écologistes, et vous avez un président qui vous dit la dernière partie de mon mandat, ce sera une partie sociale et écologique. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, il faut sortir du double discours.
C'est une alliance dans beaucoup de villes, hein, Valérie, Lyon, Bordeaux, ouais. Perpignan. Il parlait de ça. Hier, il recevait aussi, toujours dans cet avou, Mathieu Kassovitz. Alors ne lui parlez pas du cinéma actuel, car c'était mieux avant, Valérie.
Ne parlez pas de cinéma parce que moi je vais vous faire sortir des trucs de vieux en disant c'était mieux avant. C'était mieux avant quand on pouvait voir quand il fallait voir les films le mercredi à 14h parce qu'à 16h ils étaient rayés. C'était mieux avant quand il fallait qu'on faisait 8 heures de queue parce que si tu regardais pas le film là et si tu le ratais, il passait pas à la télé pendant les 5 prochaines années. Il n'y avait que du VHS pour regarder. C'était mieux quand tu savais que les trucs, t'entendais la pellicule derrière. C'était mieux quand tu savais que le Star Wars était livré par des mecs de la Brinks avec des hommes armés parce que c'était ça.
C'était mieux avant. Comment, Valérie ?
J'ai dit bof. Ah bon ? C'est ironique, hein, ce qu'il dit. C'est très, très ironique. Oui,
le témoignage fort et émouvant des parents d'Alexian Daval, tué et brûlé par son mari, Jonathan Daval. Alors, c'est un témoignage choc qu'on a entendu hier sur France 2. C'était dans l'émission « Ça commence aujourd'hui », présentée par Faustine Bollard.
Vous n'y avez pas cru ? Non. Une seconde.
Non. Qu'on a tout fait pour lui pendant 3 mois. Il venait manger le soir avec nous. Je faisais tout ce qu'il aimait. Je faisais de la cuisine qu'il rapportait chez lui.
Vous avez pris soin de lui.
On pleurait ensemble.
On prenait soin de lui.
Combien de fois qu'il nous a dit « Vous êtes ma seule raison de vivre. Si vous n'étiez pas là,
vous êtes ma famille.
Je partirais.
C'est les mots qui restent, pense.
Ça fait froid dans le dos, hein. Hier, pour finir, on en parlait, le carton de Quotidien. Il recevait donc Claude de Koh-Lanta qui racontait son aventure sur les poteaux. Et puis, il nous a raconté un peu l'histoire, comme Nawel nous l'avait dit hier.
J'ai ressenti la déception, forcément. Je devais la gagner, donc déçu par moi-même. Mais après, voilà, ça passe vite en même temps.
Qu'est-ce qui vous fait tomber ? C'est les jambes qui tiennent plus à Flash ?
Non, mais en fait, Denis s'approche pour annoncer qu'il faut enlever la dernière clavette. Et c'est le moment que j'attends avec impatience. Donc je commence à regarder les techniciens qui sont sur la plage en train de s'affairer. Et à un moment où je tourne la tête, mon genou est vrillé. Et là...
C'est la
voilà.
Chute.
Absolument. Allez, on est en ligne avec Bilal Hassani. Bonjour Bilal.
Bonjour.
Comment
Bonjour.
Ça va ?
Ça va très bien et vous ?
Eh ben bien, oh, le confinement, super. On pose quand même la question. Comment ça s'est passé pour vous? Vous étiez où?
J'étais chez moi, dans mon appartement à Paris, avec des amis à moi, et ça s'est très bien passé.
D'accord. Et donc, vous êtes sorti, enfin, du confinement, comme beaucoup de gens. Et vous allez nous parler de ce concert qu'on va pouvoir voir ce soir sur C-Star et sur C8. C8, c'est à 21h15 et C-Star, 22h45. C'était à l'Olympia, à l'initiative d'Emmaüs. Emmaüs, et on aura tout à l'heure une responsable d'Emmaüs qui va nous raconter la difficulté dans laquelle il se trouve. Racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place et comment s'est organisé ce concert particulier.
Mais évidemment, c'est un concert assez unique parce qu'il n'y a pas de public à l'Olympia. Alors, c'est une salle que j'apprécie beaucoup. J'y suis allée deux fois, mais là, c'était vraiment particulier d'y retourner sans public. Mais comme j'ai vu que c'était un concert qui allait rassembler plein d'artistes au profit de l'Emmaüs, qui a besoin d'aide aujourd'hui et qui a besoin de soutien plus que jamais, j'ai tout de suite accepté et je pense que j'ai passé un moment vraiment, vraiment magique et unique avec tous les autres artistes.
Mais alors, comment ça s'est passé? Vous étiez ensemble? Vous avez chanté un par un? Parce que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir se chanter dans une grande salle comme celle de l'Olympia.
Mais évidemment, il y avait des grosses mesures de sécurité. Donc, on n'a pas spécialement... Enfin, il n'y a pas de collégial. On n'a pas chanté tous ensemble. Mais on a pu prendre le temps de s'écouter les uns les autres. Et c'est vrai que ça, c'était un plaisir.
Oui.
Et alors, j'imagine que chanter sans public, ça doit être très bizarre quand même pour vous, surtout que vous avez un public qui vous aime beaucoup, qui crie, qui connaissent vos chansons. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une salle vide devant soi?
Mais, au début, c'est un petit peu étrange, il faut prendre ses marques. Moi, c'est vrai que le public m'habite vraiment, donc quand je chante, j'ai besoin d'eux. Alors... Dans ces moments-là, il faut revenir un petit peu à son rêve d'enfant, il faut revenir à la chambre de petit garçon où tu fais tes concerts tout seul et que tu imagines le public. Donc j'ai beaucoup fermé les yeux, j'ai beaucoup imaginé le public devant moi et c'était voilà, beaucoup de force mentale pour se dire qu'ils étaient là en esprit avec moi.
Vous avez été en contact permanent avec vos fans sur Instagram. Ils vous ont demandé des nouvelles. Comment vous avez vécu justement, comme d'autres chanteurs, cette partie de particulière de notre vie?
Moi, je suis très habituée à rester en contact avec ma communauté, que ce soit sur Instagram, Twitter, un petit peu partout. Donc rien n'a trop changé. Je continue de parler avec eux quotidiennement, de prendre de leurs nouvelles, ils prennent des miennes et je leur fais suivre un petit peu mes aventures, même dans ce climat évidemment qui est un peu particulier, où on n'a pas pu trop se voir. On se tient toujours au courant et voilà, ça fait plaisir de leur parler tous les jours, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. J'ai toujours été assez proche de ma communauté sur les réseaux sociaux.
Moi, je voulais savoir, ça fait à peu près 2 ans, vous avez connu au moment de l'Eurovision, on voyait que c'était votre rêve d'enfance, on a vu beaucoup votre maman, nous on s'est parlé dans l'émission de Valérie quand vous êtes venu, tout ça a été magique. Est-ce qu'au bout de 2 ans, vous êtes désenchanté ou pas du tout, ou vous avez des choses qui vous ont déçu dans ce métier?
Alors, toujours pas désenchanté, je pense que je le ferai jamais, j'aime trop ce que je fais. J'ai toujours vraiment les étoiles dans les yeux à chaque fois que j'arrive n'importe où pour faire quoi que ce soit littéralement, parce que tout ce qui peut m'amener à chanter, à exprimer quelque chose, à raconter mon histoire en musique, ça me fait moi en fait. Ça crée mon identité, ça crée mon envie d'être, mon envie de vivre, ça me fait vibrer. Donc à chaque fois, je trouve toujours quelque chose pour être époustouflé et voilà, et j'exagère même pas en plus, hein. Je veux pas faire trop, mais c'est vraiment ça, quoi.
Ouais. Sur l'Eurovision, vous l'avez vécu comment, cette Eurovision, cette année aussi particulière à cause du coronavirus? Déçu que ce n'a pas pu avoir lieu?
Très déçu que ça n'ait pas eu lieu. Déjà pour Tom Leb qui était censé nous représenter, et aussi pour tous les participants, parce que je sais à quel point la préparation en fait pour un concours comme l'Eurovision est intense et de se faire couper court juste avant d'y aller, c'est vrai que ça peut être très frustrant, mais j'ai quand même apprécié l'initiative de chaque pays de quand même mettre en place quelque chose et de pouvoir partager un petit peu les moments mythiques de l'Eurovision et nous faire entendre ces chansons de 2020 malgré le fait qu'il n'y avait pas de concours.
Au concert de ce soir, on va citer hein, Patrick Bruel, Claudio Capeo, Dadju, Thomas Dutronc, Oshi, Camélia Jordana. Vous avez pensé quoi de sa sortie à Camélia Jordana, de son engagement? Est-ce que vous aussi, vous estimez qu'un chanteur, un artiste doit s'exprimer sur la société?
J'ai pu croiser Camélia à l'Olympia et c'était un plaisir de discuter avec elle. Je trouve que si elle a envie de s'exprimer, elle devrait avoir le droit de dire ce qu'elle a envie de dire. Et, oui. et ça a toujours été une chouette artiste et une chouette oui. femme.
Est-ce que vous estimez que c'est le rôle, enfin pour vous, hein, c'est le rôle d'un artiste de donner son avis sur la société? Est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que... Que chaque artiste devrait un petit peu utiliser sa plateforme comme il ou elle le veut, parce que avant d'être un artiste, on est des êtres humains et quand on se sent indigné par des choses, on devrait avoir le droit d'en parler. Après, voilà, moi particulièrement, j'essaie toujours de discuter de manière j'essaie de pas trop faire remonter mes émotions quand je vais parler publiquement parce que je connais mon public, je sais qu'il est assez jeune et j'essaie plutôt de les éduquer sur certaines choses peut-être qu'ils vont moins comprendre et pour qu'ils puissent qu'il y ait une conversation plus que juste je leur parle.
Alors, vous avez un public qui suit vraiment Bilal, hein, puisque vous allez faire le Trianon le 27 septembre et la salle de concert est complète. Et puis, alors, c'était pas de chance, parce que vous avez sorti votre nouveau single au moment où il y a eu le confinement, un single qui s'appelle Fais le vide. Je vous propose d'en écouter un extrait, Valérie. Fais le vide, on ne le perd pas. Fais le vide, fais-le comme ça. Majeur en l'air, une bouffée d'air, tu traces comme s'il n'y avait que toi. Fais le vide, ne les écoute pas. Ceux qui parlent et qui n'avancent pas.
Oui, bien sûr. On a envie de danser ce matin, malgré le mauvais temps, Bilal Hassani.
C'est le but.
C'est le but. Donc, Trianon, donc déjà complet. Il y aura d'autres dates, d'autres grandes salles?
Alors, le Trianon, c'est techniquement la dernière date de la tournée de mon premier album. C'est vrai que c'est décalé, donc ça fait un peu bizarre. Mais la tournée du deuxième album aura lieu en 2021.
Bon, très bien. Donc super. on vous retrouve ce soir, donc engagé pour Emmaüs.
On va être dans un instant.
Oui, on va être en ligne dans un instant avec Valérie Fayard, qui est la directrice générale déléguée d'Emmaüs. D'ailleurs, c'est en vous recevant pour ce concert que j'ai pris connaissance moi de la situation dramatique dans laquelle se trouve Emmaüs à cause du Covid. Elle va nous expliquer dans un instant ce qui s'est passé et c'est bien qu'un très grand nombre d'artistes comme vous ayez répondu présent, Bilal Hassani, évidemment, appel aux dons pour financer la distribution alimentaire aux personnes les plus fragiles. Et puis, j'ai entendu que les recettes publicitaires également seraient reversées à Emmaüs, donc ce soir sur C8. Merci d'avoir été avec nous, Bilal Hassani.
Merci
à vous. À bientôt. On se retrouve dans un instant avec Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs France. Et on va se retrouver juste après pour parler de propos racistes dans une discussion privée à propos de la mise en lumière de ces échanges entre policiers. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous avons notre gagnante avant de poursuivre l'émission. La gagnante, c'est Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour, vous avez gagné une semaine dans un club Bellambra en demi-pension. Très très beau cadeau qui vous est offert par Bellambra et Merci. Sud Radio. Mer ou montagne?
Je ne sais pas, faudra jouer avec vous mon ami.
Bon, et c'est, C'est pour 4 personnes. Vous êtes contente?
Oui.
Bon, oui, vous êtes émue. Pourquoi vous êtes émue comme ça? Vous en rêviez?
Il y a longtemps que je ne reste plus aux vacances, je n'ai pas les moyens. Et puis là, je suis dans la galère. Mon ami a un cancer et il est en grand traitement.
Écoutez, on est heureux que ça vous réconforte et que vous puissiez profiter de ce séjour. Vous allez voir, vous allez être chouchouté, il y a une bonne cuisine et puis vous pourrez même emmener des amis avec vous, Marie. Donc on est ravis que ce soit tombé sur vous.
Merci
à vous. Merci à vous.
Toute votre équipe. Et je voudrais dire un petit, juste quelque chose, c'est que Emma, moi je les aide tous les ans. Et là, j'ai fini de vider ma maison. Cette semaine, ils viennent encore chercher des meubles, des choses que je leur donne, qu'ils revendent et qui leur fera de l'argent.
Écoutez, je pense que Valérie Fayard va être très, très touchée. Elle est avec nous et c'est grâce à des gens comme vous, justement, qu'Emmaüs fonctionne. Merci beaucoup, Marie. Et j'ai des frissons en vous entendant et je suis vraiment très, très heureuse et très touchée que ce soit vous qui profitiez de ce cadeau bel en bras. Valérie Fayard, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale déléguée d'Emmaüs. On le disait tout à l'heure avec Bilal Hassani, il y a un grand concert ce soir qui est diffusé par C8 en soutien à Emmaüs. Et moi, j'ai découvert à cette occasion que vous aviez extrêmement souffert pendant la crise du Covid et que vous étiez dans une situation extrêmement compliquée. Dites-nous ce qui se passe. Quelle est la situation d'Emmaüs aujourd'hui?
En fait, effectivement, le mouvement Emmaüs il repose beaucoup sur l'autonomie et la question de l'activité économique. C'est-à-dire que c'est au travers de la récup de produits, comme la dame très émouvante juste avant l'a expliqué, de produits qui sont donnés par des citoyens, des gens, que nous les réparons, nous les revendons dans les fameuses salles de vente Emmaüs. Il y en a des centaines sur le territoire. Et cette activité économique génère un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires nous permet de mettre au travail, de donner une activité, un emploi à des milliers de personnes, des compagnons dans les communautés, des salariés d'insertion. Donc, c'est un système qui fonctionne très bien, mais on n'est pas des entreprises, on n'a pas de la trésorerie d'avance de plusieurs mois. Et là, pour la première fois de notre vie, 3 mois quasiment sans activité. Donc, 3 mois sans chiffre d'affaires, alors qu'en face, bien évidemment, les charges relatives à l'accompagnement des personnes, les compagnons, ils étaient toujours dans les communautés. Donc, les charges relatives à l'hébergement, à l'alimentation, à la santé, tout ça a continué à courir. Et en face, on n'avait plus de chiffre d'affaires. Donc, drame absolu. Et on s'est dit, là, on ne peut pas prendre ce risque-là. Il faut qu'on soit là aujourd'hui et demain. Et donc, on fait appel à la générosité des Français.
Donc, si des gens nous écoutent et ont envie de vous aider, vous demandez évidemment des dons financiers, mais aussi que les gens aillent chez vous pour acheter, pour faire fonctionner en fait le système. Où est-ce qu'on fait les dons si on veut donner?
Alors, on fait les dons sur le site d'Emmaüs France, évidemment, emmaüs-france.org. Il y a un bouton très simple et on peut faire un don financier. Donc ça, effectivement, c'est la première fois. Nous, ce n'est pas du tout notre culture de faire appel à dons. Mais là, vraiment, on en a besoin. Donc, le premier point, c'est un don financier et on est super émus. Les Français répondent bien. Il y a des gens à très petits moyens qui nous font un don de 10 euros, mais c'est vraiment super et c'est vrai. Ça prouve l'attachement des Français. Premier point, ça, c'est très important en ce moment. On a besoin de passer la vague. Et le deuxième point, vous avez raison de le dire, c'est aussi de continuer, revenir dans les salles de vente Emmaüs qui réouvrent petit à petit dans des conditions de sécurité sanitaire tout à fait rigoureuses. Revenez nous voir. Revenez donner à Emmaüs aussi des meubles, des vêtements, tout ce que vous donnez d'habitude. Revenez acheter parce que vous allez remettre en route cette machine qui nous permet de mener un projet social de solidarité. C'est extrêmement important de revenir nous voir.
Moi, je voulais savoir comment ça s'est passé pour les compagnons et puis pour les personnes que vous hébergez, parce que vous avez des centres d'hébergement. Comment ça s'est passé avec le Covid et puis pour éviter aussi que la maladie se propage?
Alors, d'abord, sur le plan sanitaire, on a été en fait assez très rigoureux. Les communautés se sont organisées très vite. Et finalement, on a été assez épargnés grâce à cette organisation avec tous les gestes barrières, avec toute l'hygiène, etc. Donc ça s'est relativement bien passé et on touche du bois. Et après, dans les structures Emmaüs, par exemple, les communautés où effectivement les compagnons vivent, c'est la première fois qu'ils se retrouvaient sans activité, sans rien avoir à faire de toute la journée. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être complètement désœuvrés. Eh bien non, ça c'est aussi Emmaüs et c'est le côté génial. Ils se sont mis en route, ils ont repeint les espaces de vente, ils ont bricolé, ils ont réparé les meubles, ils ont mené des actions de solidarité en externe, en allant faire des maraudes, en distribuant de l'aide alimentaire, en accueillant des gens à la rue qui avaient besoin. Donc l'activité de fond qui est vraiment l'accueil et l'accompagnement, elle a continué. Et puis on a des structures Emmaüs, comme Emmaüs Solidarité à Paris, qui gèrent des accueils de jour, des centres d'hébergement, qui fait des maraudes. Et ça, ils ont continué plus que jamais, ils ont été au front. La Fondation Abbé Pierre aussi a continué son action et a financé des dispositifs d'aide alimentaire. Enfin, on s'est mobilisé partout et on a passé la vague sur un plan social. Maintenant, il faut qu'on continue à pouvoir faire cette activité dans l'avenir et il faut continuer à nous aider pour ça.
Est-ce qu'il y a des activités qui sont plus menacées que d'autres chez Emmaüs ?
Ben, l'activité qui est menacée, c'est l'activité globale, c'est-à-dire c'est ce modèle de récupération, ouais. Repente et au travers de ça, accueil et projet social. Si une structure ne peut pas assumer le 3 mois de pas de chiffre d'affaires et après un chiffre d'affaires incertain pour les mois qui viennent, ben, le risque, c'est tout bêtement qu'elle ferme. Donc il y a des menaces de réduction d'activité, donc d'accueil dans des structures Emmaüs.
Et vous n'avez pas d'aide de l'État ?
Alors, ça dépend des structures, mais par exemple, les communautés Emmaüs n'ont pas d'aide de l'État elles ne touchent pas de subventions. Donc, c'est vraiment l'activité marchande.
Vous êtes autosuffisant, en fait.
Voilà, c'est l'autosuffisance. Et dans les structures d'insertion, il y a des aides, effectivement, pour l'aspect insertion, mais le chiffre d'affaires représente entre 30 et 50%. Et donc, c'est fondamental. On ne peut pas vivre sans ce chiffre d'affaires non plus. Donc, il y a un pan d'Emmaüs qui vit grâce à l'activité.
Le Covid a plongé un certain nombre de personnes dans la précarité. Est-ce que vous l'avez ressenti depuis le déconfinement ? Est-ce que vous avez ressenti une hausse des demandes avec des profils peut-être un peu différents, comme des étudiants ou des gens que vous n'aviez pas l'habitude de voir ?
Oui, alors ça, c'est effectivement l'ensemble des associations, comme les Restos du Cœur, comme le Secours Populaire, etc., témoignent de ça, notamment dans tout ce qui est aide alimentaire. Bon, nous, c'est pas notre action principale, l'aide alimentaire. Mais néanmoins, on a vu effectivement des demandes d'accueil dans les communautés. On voit que les gens reviennent aussi pour acheter chez nous. Parce que, et c'est notre vocation sociale aussi, on offre des tas de produits à tout petit prix. Donc, j'allais dire, quelque part, malheureusement, les gens, ils ont vraiment besoin d'Emmaüs pour aussi s'équiper à petit prix. On n'a pas encore suffisamment de données objectives pour répondre à votre question. Mais oui, on sait que demain, forcément, les besoins d'accueil, les besoins d'accompagnement des personnes les plus fragiles, ils vont augmenter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là, comme on est là depuis 70 ans. Qu'on continue à pouvoir être là.
Vous avez besoin de combien aujourd'hui ?
Alors, on ne le sait pas exactement parce qu'en fait, ça va dépendre de comment l'activité économique repart. Voilà, c'est ça. Si jamais elle reprend à 100% tout de suite, ça ira beaucoup mieux que si elle ne reprend qu'à 50 ou 30%. Et malheureusement, ça serait très étonnant qu'elle reprenne à 100% parce que déjà, on ouvre dans des conditions de sécurité qui font qu'on ne peut pas avoir autant de clients que d'habitude, etc., etc. Il y a des structures qui n'ont pas réouvert complètement. Donc, le chiffre d'affaires, il ne va pas reprendre complètement.
Mais
donc,
les besoins, ils vont augmenter au fur et à mesure.
Et bien, pas tant que ça, heureusement. Ça, on a l'impression que les gens, ils sont quand même là. Mais par contre, on est obligé de leur faire la queue, de les faire rentrer petit à petit, etc. Et puis, d'autre part, là, on est juste dans le déconfinement. Mais dans un mois, dans deux mois, quand malheureusement, la crise sociale aura augmenté, quelle sera la situation ? Voilà, on va avoir besoin de nous. Et est-ce que les gens, ils auront des sous à mettre pour acheter chez nous aussi ? La question reste posée. Donc, c'est l'incertitude. Et donc, le danger, il n'est pas écarté.
Et vous confirmez que ce soir, le concert qui sera diffusé par C8, les recettes publicitaires iront à Emmaüs ?
Oui, alors, il y a d'une part l'appel à dons au travers des artistes. Vous en avez parlé largement et on est super émus et super touchés de l'engagement de ces artistes. C'est vraiment important pour nous que l'ensemble de la société civile se mobilise. Et puis, en effet... Les recettes publicitaires seront versées à Emmaüs Défi, tout à fait.
Ça, c'est une très bonne chose. Donc, on rappelle aux gens qui nous écoutent et qui auraient envie de donner, même un petit peu, ce sont les petites gouttes qui font les grands ruisseaux. Donc, donner à Emmaüs, donner des choses, des vêtements, des meubles pour vous aider à reprendre. Mais vos entrepôts sont assez pleins, non ? C'est ça, le problème, c'est qu'il faudrait aller chez vous pour acheter.
Voilà, il faut aller chez nous pour acheter, ouais. Il faut quand même continuer à donner parce que c'est important et on trouvera des solutions. Et puis, il faut nous donner des sous parce que c'est le nerf de la guerre à court terme.
C'est le nerf de la guerre. Voilà. Situation compliquée chez Emmaüs. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, c'est 8 ce soir pour le concert à 21h10. Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs. On se retrouve dans un instant pour parler des réseaux sociaux, propos racistes dans une discussion privée où s'arrête la liberté d'expression. On en parle avec vous dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, je suis en ligne avec Pauline Birolini, responsable du service juridique de SOS Racisme, et Maître Thierry Valla, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du numérique. Gilles est resté avec nous. On revient sur cette affaire qui évidemment fait beaucoup réagir, où des policiers dans un groupe Facebook, vous l'avez entendu certainement, s'échangeaient des propos, des réactions racistes. Maître Viala...
Un groupe fermé, c'est, hein, Valérie.
C'était un groupe fermé, mais 8000 personnes. Alors, Maître Viala, je voulais déjà avoir le point de vue de l'avocat de façon assez factuelle. Est-ce qu'une conversation sur Facebook, dans un groupe privé, sur Instagram, sur WhatsApp est privée ou est susceptible de poursuites si quelqu'un révèle les propos?
Alors, tout va dépendre le nombre de participants. C'est aujourd'hui, on n'a pas encore de taux ou d'ombre qui est véritablement défini par les tribunaux, par la jurisprudence, à part en matière sociale. La Cour de cassation, il n'y a pas très longtemps, en 2018, a considéré qu'un groupe de 14 personnes était fermé et que donc on n'était pas dans un domaine public. Là, on est dans des groupes de 8000, 9000 personnes. Pour moi, très clairement, on dépasse le stade privé et on bascule dans le public. Très clairement, l'administrateur n'a pas souhaité utiliser simplement un nombre très limité de participants, et même s'ils sont cooptés et qu'on doit participer et qu'on doit être accepté pour adhérer à ce type de groupe, on est dans le public et donc c'est sanctionnable bien évidemment par l'injure publique, et là avec en matière raciste des sanctions plus lourdes qu'en matière privée.
Oui. Pauline Birolini, donc vous êtes responsable du service juridique d'SOS Racisme. Ce type de plainte, vous en recevez régulièrement sur des conversations privées dans lesquelles des propos racistes sont tenus?
Oui, on a intervenu dans plusieurs procédures de ce genre. Il y en a de plus en plus sur les groupes de réseaux sociaux fermés. On a aussi beaucoup d'injures privées, simplement parce qu'elles sont dites aussi entre voisins dans un lieu privatif, donc ça arrive aussi. Et on fait aussi forcément des procédures en matière d'injures publiques, mais ce n'est pas les premières procédures sur des réseaux sociaux avec des groupes qui ont des communautés d'intérêt, donc qui sont des groupes privés, effectivement.
Et là, en l'occurrence, pour vous, ce qui se passe, justement, ce qui a été révélé par Street Press, vous allez, j'ai pas tout suivi, savoir si SOS Racisme allait attaquer.
Alors nous, donc le ministère de l'Intérieur a déjà fait un signalement, il y a une enquête qui va être ouverte. Nous, on a également fait un signalement, on s'est joint à un signalement du ministère de l'Intérieur. C'est vrai que comme on n'a pas accès à la totalité des propos, c'est assez difficile de savoir... s'il y a des injures racistes, combien il y en a, s'il y a de la diffamation, quels sont les types d'infractions, puisqu'il faut aussi prendre le contexte dans lequel elles ont été dites. Mais en tout cas, on a fait un signalement auprès du parquet pour qu'il vérifie méticuleusement tous les propos qui ont été tenus et qu'on soit tenu au courant pour les suites de la procédure et qu'on se constitue effectivement partie civile si une procédure judiciaire est engagée.
Quels sont les risques qu'ils encourent pour ces injures? C'est des amendes ou c'est...
On a des amendes, on a de la prison hein, en matière d'injure publique, c'est un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, hein, donc c'est pas rien, même si malheureusement les sanctions ne sont pas aussi lourdes prononcées par les tribunaux ou les cours, mais en théorie, ce type d'injure publique à caractère racial ou antisémite, homophobe, etc., on dépasse le stade de la simple amende ou la simple contravention, donc là on a de la prison à la clé éventuellement.
Et comment prouver que c'est la personne qui a tapé la phrase? Parce que moi, je peux dire que mon ordinateur était ouvert et puis c'est mon fils qui s'est amusé.
C'est assez compliqué en réalité. Aujourd'hui, on est au balbutiement encore de tout ça sur les réseaux sociaux. L'administrateur est certainement responsable. C'est clairement quelqu'un qui doit. C'est lui qui est le principal fautif. Bon, ensuite, les personnes qui participent. Quand il s'agit simplement de relayer, sans mettre de commentaires, quand il s'agit peut-être de liker, de mettre simplement d'appuyer sur un petit bouton, est-ce que ça contribue à faire ça? Bon, alors, certains pays ont considéré que liker, c'est déjà diffamer ou injurier. En France, là, on est en train d'être sur cette voie-là. Un retweet, par exemple, correspond à une nouvelle édition d'une injure ou d'une diffamation, donc elle est sanctionnable par les tribunaux. Donc, pour moi, tous les participants sont potentiellement susceptibles d'être, sinon responsables, du moins en tout cas complices de cette infraction.
D'accord.
Même si je retweet avec le mot scandaleux.
Bah oui, c'est une prise de position.
Non, mais si je dis regardez alors, ce raciste.
Ah oui. Ah bah non.
C'est tout le problème de savoir où s'arrête la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Il est garanti par la Constitution. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 89 qui est en préambule de la Constitution. Néanmoins, cette liberté d'expression s'arrête, et c'est l'article 11, un abus peut commencer. Et l'abus, c'est la loi de 1881 sur la presse, qui est aujourd'hui toujours applicable et qui fonctionne très bien, qui va définir la diffamation, l'injure et toutes ces infractions qui limitent ce que l'on peut dire ou non dans la presse, sur les médias et dans les réseaux sociaux. Donc, la liberté d'expression n'est pas un droit, on va dire, absolu, il est fondamental. Néanmoins, sur ce type de dérapage, le caractère raciste, et c'est bien là où se posera
c'est
le problème
de
savoir qui va c'est un délit, qui va définir ou non le caractère raciste, eh bien, c'est un juge, et ça ne peut être qu'un juge qui va le faire.
Pauline Birolini, on parle de liberté d'expression, jusqu'où, effectivement, c'est la question.
Effectivement, en matière de racisme, c'est assez compliqué puisque c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre à certaines personnes que le racisme n'est pas une opinion et que c'est pas tolérable. Et donc, encore une fois, je suis d'accord que c'est vrai qu'il y a tout un principe de proportionnalité et tout dépend du contexte dans lequel les propos sont utilisés, sont dits. Et donc, effectivement, le pouvoir judiciaire intervient aussi dans ce cadre-là pour évaluer le contexte et pour voir si on est dans le cadre d'une infraction ou pas. Mais c'est très difficile de faire des généralités là-dessus parce que ça dépend vraiment du cas par cas.
Du cas par cas, mais c'est vrai que la question qui s'est posée hier avec ou avant-hier quand il y a eu la révélation des propos tenus sur ce groupe, c'était des questions de savoir est-ce que si j'envoie une blague plus ou moins, pas forcément raciste, mais un peu douteuse, est-ce que je suis passible si quelqu'un décide d'une condamnation, si quelqu'un décide de révéler cette conversation que j'ai eue?
Potentiellement oui, potentiellement oui, puisque tout va dépendre, et je suis d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite, ça dépend du contexte. En tout cas, les passages qui ont été diffusés dans les médias démontrent quand même des échanges qui sont au-delà de la blagounette, me semble-t-il. Alors, après, certains vont les considérer comme véniels, d'autres vont les considérer comme beaucoup plus délictuels. Donc, c'est là où le curseur va se poser et c'est très, très difficile. À la faveur de ces groupes, on s'aperçoit qu'il est très, très difficile de modérer les réseaux sociaux. On le voit très bien. La loi Avia, qui est en cours de promulgation, si le Conseil constitutionnel le veut bien dans quelques jours, va donner des responsabilités aux plateformes, à Facebook, à Twitter et autres. Comment vont-ils réagir par rapport à ça? Lorsqu'il y aura un signalement de ce type de groupe fermé, est-ce que Facebook va le fermer directement en disant « Bon, moi, je considère qu'il y a une difficulté », comme il l'avait fait il y a 3 ans dans les groupes Babylone 2.0, qui étaient par exemple des groupes sur lesquels il y avait du revenge porn et on passait des contenus pornographiques. Donc eux, là, Facebook avait immédiatement réagi. Là, comment vont-ils réagir pour se protéger? Est-ce qu'ils ne vont pas justement couper la connexion à ces groupes? Et alors là, peut-être la liberté d'expression en général sera, et c'est bien une des craintes qu'on a avec cette loi Avia, que la liberté d'expression soit en danger. Parce que est-ce que c'est aux plateformes de définir ça? Moi, je considère que c'est le juge et uniquement le juge qui peut le faire.
Oui, Pauline Birolini, sur la loi Avia, est-ce que ça va apaiser les choses ou au contraire compliquer?
Alors c'est vrai que c'est difficile à dire tant qu'on voit pas la manière dont elle est appliquée, mais nous, enfin à SOS Racisme, en tout cas globalement, on a soutenu l'adoption de la loi Avia. Alors ça veut pas dire qu'on la trouve parfaite. On trouve qu'il y a certaines dispositions qui sont pas adaptées ou qui ne vont pas assez loin ou qui entraînent des risques évidemment, mais ça nous semblait nécessaire de revoir la loi de 2004 qui était finalement pas adaptée aux réseaux sociaux puisqu'elle a été adoptée à une époque où la plupart des réseaux sociaux n'existaient pas encore ou étaient très peu utilisés. Et donc on pense que dans tous les cas, les plateformes doivent intervenir dans la modération. Alors après, c'est vrai que idéalement, il faudrait que ce soit un juge qui décide de tout ça, mais c'est vrai que ça nous paraît compliqué aujourd'hui avec les moyens matériels et financiers de la justice de passer exclusivement par le biais du juge, parce qu'il y a quand même énormément de signalements chaque jour, et donc ça paraît très difficile à traiter, et passer par le biais des modérateurs dans un premier temps, ça nous paraît inévitable, en tout cas aujourd'hui, même si heureusement il y a quand même le juge reste derrière en cas de recours pour vérifier aussi la bonne application de la modération.
Oui. Merci à tous les deux. Merci Gilles également. Pauline Birolini, donc responsable du service juridique de SOS Racisme, et maître Thierry Valla, avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit numérique. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour revenir sur la conférence de presse de Christophe Castaner hier. Beaucoup de réactions déjà. À tout de suite sur Sud Radio.